Tech It News.
Et bonjour tout le monde, ici Ludo et on se retrouve pour un nouveau Tech It News. Tech It News, pour ceux qui arrivent, c'est l'émission qui vous diffuse le meilleur du contenu de Tech It Radio. Et là, aujourd'hui, on part sur un contenu qui est issu de La Parenthèse, votre émission quotidienne en direct live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Voilà, un petit coup de pub, ça ne fait pas de mal. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de la forêt dans le contexte des chroniques nature de Lisa. Vous les connaissez peut-être déjà, c'est toujours super intéressant. Ça parle de sensibilisation à la nature, à la faune, à plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler spécialement de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur la forêt? Eh bien, plein de choses. Peut-être que vous ne savez pas s'il faut recycler votre papier ou pas, s'il est important de l'économiser ou si vous pouvez l'utiliser à foison. Quel est le matériau le mieux pour isoler des flammes? Est-ce que c'est le bois, vrai ou faux? Eh bien, je vous laisse avec la chronique de Lisa, où elle va répondre à toutes ces questions. Vous allez voir, c'est super intéressant. Sans plus attendre, je vous laisse avec Lisa pour la chronique nature sur les forêts. Ciao, ciao.
Les chroniques de Lisa.
Bonjour chers auditeurs de Take It, c'est Lisa, je suis de retour pour de nouvelles chroniques nature. Je suis avec Ludo aujourd'hui.
Coucou.
Et cette chronique va parler des forêts françaises. Alors d'abord de son histoire, de son mode de gestion, et j'aimerais mettre un terme à certaines idées reçues sur la forêt et le bois. Vous allez être surpris.
Trop cool.
Alors avant que j'oublie, si vous avez des idées de chroniques desquelles vous aimeriez que je parle, n'hésitez surtout pas à nous en faire part sur la page Facebook de Take It.
Voilà, on va mettre des posts Facebook avant l'émission et après l'émission. N'hésitez pas sur les posts des chroniques nature à dire ce que vous voulez avoir comme sujet. Alors, parle-nous un peu des forêts qui nous entourent et qui nous paraissent si mystérieuses au final.
Alors tout d'abord, les forêts ont un rôle écologique très important. Ce sont les principaux réservoirs de biodiversité. Alors petit rappel, la biodiversité, c'est en gros la diversité du vivant, quoi. Et en absorbant des tonnes de carbone, elles contribuent à lutter contre l'effet de serre. En gros, elles nous permettent de respirer, quoi. Nous reviendrons à l'effet de serre lors de ma chronique sur le réchauffement climatique, qui aura lieu prochainement.
Ouais, mais pour le moment, on va plus se recentrer sur la forêt française. Moi, je connais pas du tout la surface de forêt en France, par exemple.
Comme la plupart du monde, hein, je te rassure. Alors, la forêt en France recouvre 30% du territoire métropolitain et correspond à près de 17 millions d'hectares de forêt. La forêt métropolitaine héberge 138 espèces d'arbres que l'on peut classer en deux grandes catégories, donc les feuillus et les résineux. 67% des arbres sont des feuillus. Les feuillus, ce sont les chênes, les hêtres, les fruitiers, tous ceux qui ont des feuilles, quoi. Et 33%, ce sont des résineux. Pins, sapins, mélèzes, ceux qui ont des épines.
Ben, maintenant, on en sait un peu plus sur ce qu'est et ce que représente la forêt française, mais est-ce que tu peux nous raconter vite fait son histoire?
Alors, remonter dans l'histoire de la forêt française va nous permettre de mieux comprendre son évolution, effectivement. Alors, il y a 300 millions d'années, bien avant l'arrivée de l'homme, la forêt était formée principalement de fougères géantes. Mais le froid a succédé au chaud et la végétation tropicale a laissé la place à la glace, entraînant ainsi la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. La forêt va alors, au fil des années, s'adapter aux variations climatiques, changeant en permanence de taille, de forme, de composition, etc. Elle va se modeler peu à peu en se diversifiant, donnant ainsi naissance aux espèces que l'on connaît aujourd'hui.
Mais l'homme, il participe aussi à la modification des forêts depuis très longtemps, non?
Exactement. L'homme va à son tour modifier la forêt en puisant dans ses ressources pour se loger, se nourrir, se chauffer. Si avant la forêt recouvrait la quasi-totalité de la surface en France, en l'an 1000, au début du Moyen-Âge, avant le développement des exploitations agricoles, les surfaces boisées vont alors commencer à diminuer. Jusqu'au XIXe siècle, la forêt aura comme seul allié les rois.
comme seul allié les rois, c'est-à-dire les rois ont protégé la forêt, c'est ça que tu veux nous dire?
Eh bien oui, les rois ont entretenu les forêts pour y pratiquer la chasse à cour, où ils récoltaient leur bois pour créer leurs navires. Comme par exemple la forêt domaniale de Fontainebleau. C'est, entre parenthèses, c'est la deuxième plus grande forêt de France, quoi. Elle a fait partie du domaine royal pendant 8 siècles, principalement réservée à la chasse. Désormais, elle appartient à l'État et est ouverte au public. La Révolution française va faire tomber des têtes. On le sait tous, mais aussi beaucoup d'arbres. Désormais sans défenseur, la forêt française atteint alors son plus bas niveau. En l'an 1800, la forêt couvrait moins de 8 millions d'hectares. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle recouvre près de 17 millions.
Mais alors, comment est-ce qu'elle a pu reprendre le dessus là, d'une telle manière?
Car finalement, au milieu du 19e siècle, nous avons eu recours à un nouveau combustible, la houille plus précisément. Mais surtout, car en 1827, c'est la création du Code forestier.
Le Code forestier, c'est quoi ça? Moi, j'y connais rien, dis-moi tout.
Alors, le Code forestier français, c'est un recueil de textes réglementaires et législatifs concernant la protection et la gestion des forêts en France. Et avec lui vient la volonté de reboiser et pour la première fois de gérer la forêt pour mieux la protéger. Une mission qui a été confiée depuis 1964 à l'ONF, Office National des Forêts, pour les forêts publiques.
L'ONF, j'ai déjà entendu cette abréviation, mais je sais plus ce que c'est.
Donc l'ONF, c'est un établissement public français à caractère commercial et qui est chargé de la gestion des forêts publiques. L'ONF a été désigné par l'État pour être l'unique garant de la gestion durable de ce patrimoine, répondant à plusieurs fonctions, la préservation de l'environnement, l'accueil du public, afin que les citoyens puissent bénéficier d'un lieu de nature, puis la production de bois pour satisfaire les besoins de la société, c'est-à-dire que le bois des forêts dont ils sont responsables de la gestion va ensuite être commercialisé dans de nombreuses branches différentes, bois de chauffage, papeterie, bois d'œuvre pour la création de meubles, etc. Pour mieux comprendre le rôle de l'ONF, nous allons écouter les témoignages de techniciens forestiers ou d'agents patrimoniaux, que l'on appelle plus communément les gardes forestiers, les employés de l'ONF, quoi.
Allez, ben on s'écoute ça tout de suite, les gardes forestiers.
Alors, le métier d'agent patrimonial ou technicien forestier, c'est l'ancienne appellation, c'est garde forestier, pour mieux comprendre. L'agent patrimonial, c'est celui qui est interlocuteur privilégié des acteurs locaux, c'est-à-dire qu'il assure un rôle d'écoute et il est force de proposition. Donc ça peut être de la forêt domaniale, du littoral. Enfin, qu'importe le statut, il mène un rôle de surveillance et d'intégrité du foncier.
L'agent patrimonial assure les activités de gestion durable sur les parcelles qui lui sont confiées. Il participe donc au renouvellement des forêts et la production de bois, préserve la biodiversité et contribue à l'accueil du public. Pour cela, il s'appuie sur le document de gestion prévu sur 15 à 20 ans, afin de choisir les arbres qui seront prélevés. Parfois, lorsque certains peuplements sont touchés par des sinistres, il doit également adapter son travail pour valoriser ses bois.
Je suis en train de recenser tous les arbres qui sont tombés suite au coup de vent de décembre 2011. J'ai des châtaigniers sur toute la crête de talus, là. Et comme c'est des châtaigniers qui ne sont pas trop mal et qui ont de bonne qualité, je suis en train de les recenser pour pouvoir ensuite essayer de les commercialiser à l'unité. J'ai à peu près une cinquantaine de brins. La démarche étant de valoriser ces bois tombés par la tempête tout de suite, parce que si on attend trop longtemps, ils seront déclassés et on en fera que du bois de chauffage.
Au quotidien, Hervé veille également sur la biodiversité en choisissant par exemple de conserver des arbres morts.
Alors là on a un exemple, c'est un tilleul qui est assez âgé, qui a éclaté, qui a un rôle vraiment intéressant. Il abrite quelques petits passereaux, voire quelques chouettes-ulottes quand il fait vraiment très très froid. On a aussi pas mal d'oiseaux, en particulier du pic noir, qui est très friande de tous ces arbres morts.
Hervé travaille dans une forêt très fréquentée. Les riverains ont pour habitude de venir s'y promener ou y faire du sport. C'est pourquoi l'accueil qu'il aurait réservé revêt un caractère fondamental.
Sur ces forêts-là, on a un rôle assez important d'information, de sensibilisation du public pour leur permettre de comprendre ce qu'on peut y faire.
Outre cette sensibilisation, qui passe notamment par des panneaux et une signalétique adaptée, Hervé doit mettre en place et rénover des infrastructures comme ses agrès.
L'agent patrimonial, c'est celui aussi qui assure des missions de police de l'environnement et forestière. Donc il est habilité, commissionné de façon à dresser procès-verbal le cas échéant. Il accueille aussi le public en forêt de manière à informer et donc préserver.
Et donc la forêt française, elle est en partie gérée par l'ONF et donc elle appartient à l'État, mais pas seulement, il me semble, non ?
Oui, il y a trois types de propriétaires de forêt. La plus grande partie appartient à des particuliers. Ils sont 3,5 millions de propriétaires forestiers en France.
Ça fait beaucoup.
Oui, car n'importe qui peut avoir une parcelle de forêt. Et dans ce cas, ce n'est pas l'ONF qui en est responsable, mais directement le propriétaire. Néanmoins, le CNPF... Centre national des propriétés forestières, est là pour accompagner les propriétaires dans les démarches de gestion de leur forêt. Puis ensuite, il y a les collectivités territoriales, puis enfin l'État, et donc l'ONF en est le gérant.
Mais alors j'ai une petite question, parce que si la plupart des forêts sont privées, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'y promener ?
Eh bien justement, non. Les propriétaires de parcelles de forêt sont libres d'ouvrir ou non leur propriété au public. Et dans la plupart des cas, ils l'autorisent. 9 propriétaires sur 10 laissent l'accès libre au public.
Ah, ça c'est sympa.
Oui. Mais comme toute tolérance, elle ne perdure que tant que chacun fait preuve de bonne volonté et de modération.
Mais ça veut quand même pas dire du coup que tout ce qui s'y trouve peut être ramassé, j'imagine.
Exactement. Contrairement à ce qu'on pense, les champignons, les châtaignes, les fleurs... Oui, les fleurs et autres produits de la forêt n'appartiennent pas à tout le monde. Ils appartiennent aux propriétaires de la forêt, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles soient interdites d'accès par un panneau ou non. Le ramassage pour consommation personnelle est toléré en forêt publique, mais il est interdit de s'adonner à une récolte industrielle.
Ah, ça c'est sympa quand même. Donc on a quand même le droit de récolter quelques fleurs si on kiffe ça, avoir quelques fleurs, offrir un bouquet à sa dulcinée par exemple.
Voilà, c'est toléré.
Ok. Bon, je change de sujet, mais on dit souvent que la forêt française, elle est surexploitée et la surface couverte par la forêt régresse d'année en année. Est-ce que c'est vrai, cette rumeur ?
Et non, c'est à nouveau faux. Et bien au contraire, en France, la forêt couvre près de 30% du territoire. La France est même le troisième pays européen pour la surface forestière après la Suède et la Finlande. En France, la récolte annuelle de bois est inférieure à la production biologique de la forêt. Chaque année, on ne récolte au plus que 60% de ce qui pousse. Donc au contraire, la forêt française couvre de plus en plus de surface chaque année. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les pays, malheureusement. Si les forêts boréales, principalement celles de l'hémisphère nord comme les forêts françaises, continuent à augmenter, les forêts tropicales, elles, régressent de façon dramatique. 15 millions d'hectares de forêts tropicales sont coupés par an. Je rappelle une nouvelle fois qu'en France, la forêt recouvre 17 millions d'hectares.
Donc, ce qui est coupé par an dans les forêts tropicales, en fait, c'est quasiment l'équivalent de la forêt française tout entière, c'est ça que tu es en train de me dire ?
Oui, c'est ça.
Alors, quand on dit qu'il faut lutter contre la déforestation, on parle en aucun cas de la forêt française, au final ?
Voilà, on parle des forêts tropicales qui sont arrachées pour des plantations de palmistes la plupart du temps et produire l'huile de palme que l'on trouve dans presque tous les produits que l'on achète au supermarché. Et oui, en prenant de bonnes habitudes et en lisant la liste des ingrédients, des produits que vous achetez, vous pouvez lutter contre la déforestation. Mais pas seulement, vous pouvez également éviter d'acheter des meubles en bois exotique rare, par exemple. Souvent, le bois exotique est utilisé pour la construction de mobilier d'extérieur. Tables de jardin, terrasses en bois, etc. Car il est très résistant à l'humidité. Et évidemment, c'est avantageux. Et ça en devient même un argument de vente, du coup. Mais les bois exotiques ne sont pas les seuls à être aussi résistants. Le robinier faux acacia, par exemple, le hêtre, le châtaignier sont tout aussi résistants, si ce n'est plus. Et même la plupart du temps moins cher. Malheureusement, des fois, les grandes surfaces de vente de mobilier ne proposent pas de bois provenant de forêts françaises. Et dans ce cas, veillez à ce que le meuble que vous achetez soit au moins certifié avec le label de développement durable. Ce label s'appelle PEFC et est représenté par un logo vert qui représente deux arbres entourés d'un cercle.
Mais c'est bien joli un label, mais qu'est-ce qui garantit au final ce label ?
Eh bien, il garantit aux consommateurs que le produit bois est issu d'une forêt dont la gestion est respectueuse de l'environnement. Les bonnes actions commencent toujours par de petits gestes simples dont il faut prendre l'habitude.
Et oui, et donc on n'achète pas de Nutella, hein, on l'a compris. Bon, pour en revenir à la forêt française, qui est donc loin d'être surexploitée, si j'ai bien compris, au contraire même, est-ce qu'elle peut du coup souffrir de sous-exploitation ?
Oui, elle peut, et cette situation lui est très préjudiciable, car une forêt où le bois s'accumule est une forêt fragilisée, plus sensible aux maladies et aux intempéries.
Mais les arbres, ils n'ont jamais eu besoin de l'homme pour pousser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intervenir ?
Car pour qu'une forêt soit accueillante, résistante, en bonne santé, comme on les connaît, quoi, il est mieux qu'elle soit gérée. Lorsque le forestier coupe des arbres, il met en œuvre le renouvellement des forêts. Les coupes d'éclaircissement favorisent la croissance des plus beaux arbres, leur équilibre et la production de bois d'œuvre de qualité.
Donc en fait, couper du bois, c'est pas tuer la forêt, c'est ça que tu es en train de me dire ?
Oui, si c'est fait raisonnablement. C'est simplement optimiser l'œuvre de la nature. Cela permet d'installer la forêt de demain, d'accompagner sa régénération, d'entretenir la vitalité de la forêt. Chaque arbre coupé, de toute façon, est remplacé par au moins 5 jeunes plants.
Et en restant sur le bois, c'est super intéressant, ça, c'est vraiment... je pensais pas que ça se passait comme ça. En restant sur le bois, je change un peu de sujet. Est-ce que le bois, il est dangereux pour la construction en cas d'incendie ?
Eh bien, beaucoup pensent comme ça. Ils pensent qu'un chalet en bois brûlera plus facilement qu'une maison ordinaire. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, le bois a une excellente résistance au feu.
Je n'arrive pas à le croire.
Eh bien, si. Sa faible conductivité thermique en fait un bon isolant. Le bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois moins vite que l'acier. Je ne dis pas que le bois prendra feu moins facilement, mais qu'il transmettrait la chaleur moins vite. Donc quand le bois brûle, il consomme lentement et en plus sans dégager de gaz toxique. Pour preuve, les pompiers autorisent l'utilisation du bois dans les parois coupe-feu.
Impressionnant, vraiment. Alors là, j'en avais aucune idée. Je pensais, jamais j'aurais eu l'idée que le bois pouvait être un isolant thermique.
Ah ben si, il est utilisé pour la construction des chalets. C'en est le meilleur exemple.
C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu m'en douter, voilà.
De plus, le bois contribue à lutter contre l'effet de serre, car même coupé, le bois continue à piéger, entre guillemets, le gaz carbonique. Ainsi, une maison avec 20 mètres cubes de bois stocke 20 tonnes de gaz carbonique. Il est parmi les rares matériaux entièrement naturels. Et il est surtout plus rapidement renouvelable, grâce au cycle de croissance des arbres. Produit d'une gestion forestière intelligente, il est le matériel inépuisable. Recyclable, quelle que soit son utilisation, il peut vivre de nombreuses vies. En plus, le bois consomme moins d'énergie pour devenir un matériau utilisable. Par rapport aux autres matériaux de construction, le bois est celui qui réclame le moins d'énergie pour sa mise en œuvre. Encore une raison de plus pour le privilégier.
C'est vraiment excellent ce que tu me dis là. Donc en fait, utiliser du bois pour la construction de sa maison, c'est le mieux, mais... Est-ce la même chose pour d'autres utilisations, le papier par exemple ? Est-ce que produire du papier, ça détruit la forêt au final, non, quand même ?
Alors oui, c'est le cas dans certains pays, effectivement. Mais pas pour la France, toujours pas. Déjà, il n'est pas nécessaire de couper une forêt pour produire du papier, ni même un arbre. Et oui, en France, seules les branches, les sous-produits du sillage et des fois les coupes de bois d'éclaircie sont utilisées pour la fabrication de papier. Donc réduire votre consommation de papier n'aura pas forcément d'impact sur l'abattage des arbres. Par contre, regarder la provenance du papier ou le recycler, ça si.
Et oui, c'est toujours une bonne chose hein, de regarder d'où vient ce qu'on achète, peu importe le produit. On peut toujours avoir des surprises. Et si certains de nos auditeurs sont des amoureux de la nature et plus particulièrement de la forêt, en fait, quel métier peuvent-ils exercer? Puisque personnellement, le seul métier de la forêt que je connais, c'est bûcheron. Mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Et nous, je pense que sur Tech It Radio, on a plein de jeunes qui aiment se balader dans la nature, dans la forêt, qui voudraient peut-être travailler dans ce domaine.
Eh bien, oui, non, effectivement, bûcheron est loin d'être le seul métier de la forêt. La filière forêt-bois représente une quarantaine de métiers différents et environ 425 000 emplois en France. La forêt constitue un enjeu d'avenir pour notre pays par son potentiel économique et social et ses métiers sont loin d'être démodés. Ils utilisent des technologies de pointe. Quelques exemples de métiers comme pépiniériste, c'est celui qui plante et cultive les jeunes arbres. Expert forestier, c'est celui qui assure la gestion. Il y a conducteur d'engins forestiers, scieur, menuisier, ébéniste, architecte, technicien forestier, et j'en passe.
Ouais, effectivement, ça en fait.
Et voilà, ma chronique touche à sa fin. J'espère que le sujet vous a plu. Et je rappelle une nouvelle fois que si vous avez des idées de chronique dont vous aimeriez que je reparle, n'hésitez surtout pas à nous en faire part sur la page Facebook ou même si vous avez d'éventuelles questions sur cette chronique, je me ferai un grand plaisir d'y répondre.
Voilà, donc n'hésitez pas du tout. Et puis, si vous voulez, peut-être que ça vous donnera envie d'exercer un métier dans la forêt.
Ou même si vous avez d'éventuelles questions sur cette chronique, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et ma prochaine chronique parlera de la fermeture des milieux en France.
Je suis pas sûr que nos auditeurs soient au courant de ce que veut dire la fermeture des milieux, ni moi d'ailleurs.
Ah oui, eh bien c'est lorsqu'un milieu naturel, par exemple une plaine, va se boiser. Des arbres vont pousser sur ce terrain et entre guillemets fermer le milieu. Je peux comprendre que cela paraît très peu intéressant dit comme ça, mais vous verrez que cette fermeture peut avoir d'énormes impacts complètement inattendus. Alors j'espère pouvoir vous dire à bientôt pour une nouvelle chronique nature. Merci Tech It.
Eh bien merci Lisa. Ciao ciao. Et voilà, c'était la chronique nature de Lisa sur le thème de la forêt. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi. Moi j'en reste toujours abasourdi, j'arrête pas de donner ces petites anecdotes à mes amis. Pendant les soirées, je me sens plus intelligent, c'est superbe. En tout cas, pour être plus sérieux, évidemment, c'est extrêmement instructif. J'espère que vous vous régalez autant que moi à écouter ce type de chronique. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve évidemment pour le Take It News tous les jours de 8h à 8h pardon, et à 11h et du dimanche au jeudi à 13h, 16h, 18h30 et 20h30. Et sur ce, je vous laisse. On se dit à plus sur Take It Radio.
Take It News.